Merci Élodie Forêt. On vous retrouve donc à 9h pour le prochain journal. Il est maintenant 8h12 sur France Culture. Bienvenue dans le secret des sources, consacré cette semaine à l'infobésité, autrement appelée surcharge informationnelle, ou plus scientifiquement encore, syndrome de saturation cognitive.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouver une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources. Antoine Mercier.
Bonjour à tous. Comme souvent, quand il s'agit d'un terme francisé, l'invention est québécoise. L'infobésité désigne la surcharge d'informations, en anglais « information overload », et elle décrit cette situation d'abondance d'informations que nous connaissons tous, peu ou prou. Flot de textes, d'images, de sons, finalement difficilement assimilable pour un individu, comme d'ailleurs pour une société, et qui, en arrasant les hiérarchies, finit par faire perdre le sens des situations sur lesquelles, précisément, on cherchait à s'informer. Bref, un trop-plein qui fait le vide. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Caroline Sauvageol-Rialan, professeure à Sciences Po, auteure d'un livre intitulé « L'infobésité », sous-titré « Comprendre et maîtriser la déferlante d'informations », publié aux éditions Vuibert. Le philosophe Bernard Stiegler, Pierre Lebovici, qui est cofondateur du site l'imprévu.fr. C'est un nouveau média qui se propose de sortir justement du modèle ultra rapide que propage le webjournalisme notamment, mais aussi le journalisme dans son ensemble. Et nous sommes aussi en compagnie de Fabrice Lorvaux, avocat, qui est chroniqueur au Secret des Sources, qui vient de publier lui un livre sur le numérique, intitulé « Numérique de la révolution au naufrage » et ses auditions fauves.
Et d'abord l'arrivée en France de Salah Abdeslam, arrêté, emprisonné en Belgique, le suspect des attentats du 13.
Et c'est la principale information de la matinée, Salah Abdeslam est en France.
On y reviendra évidemment très largement dans les toutes prochaines minutes. Autre grand titre avant cela dans l'actualité, cette avancée qui était...
On parle du chômage, la baisse du chômage, c'est la plus forte depuis l'an 2000.
Et c'est donc une information que nous vous donnons ce matin sur
Merci pour ces dernières informations, Natalia Gallois.
Le secret des sources.
Voilà donc un petit écho du flux quotidien auquel nous sommes soumis. On va diviser, si vous le voulez bien, cette discussion en deux parties. Premier temps, on va tenter de cerner ce phénomène de l'infobésité au sens large. Et puis on évoquera plus précisément sa déclinaison pour l'information au sens propre, celle que produisent les journalistes de presse écrite, de radio, de télévision, mais aussi bien sûr du net, puisque c'est depuis son développement que le problème se pose avec une particulière acuité. Caroline Sauvageol-Rialan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous donc depuis les studios de France Bleu Provence, à Aix-en-Provence. Alors je vais vous demander tout simplement si vous voulez bien nous définir d'abord ce terme d'infobésité, puisque c'est le titre du livre dont je parlais tout à l'heure.
Tout à fait. Alors, certains l'appellent brouillard ou nuage informationnel, d'autres syndromes de débordement cognitif. Pour simplifier, la surinformation ou infobésité peut être définie par le fait de recevoir plus d'informations qu'il n'est possible d'en traiter ou d'en supporter sans porter préjudice, soit à la personne, soit à l'activité. Si on veut être un petit peu plus précis, vous l'avez dit en introduction, le terme est un mot valise qui vient de information et obésité. Alors dans le cas de l'obésité, on le sait, c'est une maladie qui désigne une accumulation anormale de graisse corporelle qui représente un risque pour la santé, pour le risque, pour le cœur, pour les artères. On la mesure de façon scientifique et objective par un ratio qu'on appelle IMC, indice de masse corporelle, donc c'est le poids sur la taille. Dans le cas de l'infobésité, en fait, l'excès de masse grasse est constitué du bombardement de stimuli informationnels qui viennent gêner nos processus intellectuels. Et le risque engendré, c'est dans la difficulté à assimiler et donc à réutiliser les informations reçues. La différence avec l'obésité, c'est que dans le cas de l'infobésité, il est difficile de définir un seuil de déclenchement objectif de cette pathologie. Pourquoi ? Parce que le traitement de l'information est différent d'une personne à une autre. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aurait un seuil en dessous duquel l'information serait assimilable et donc utile. Et si on dépasse ce seuil, l'information deviendrait dangereuse pour ses destinataires.
Alors c'est un seuil qui est souvent franchi, on va dire de plus en plus souvent. On peut peut-être prendre la mesure du phénomène, parce que comme dans les animaux malades de la peste, on peut dire que s'ils n'en mouraient pas tous, tous étaient frappés, nous sommes tous frappés.
C'est très juste, nous consommons aujourd'hui 7 fois plus d'informations qu'en 2004 et nous en consommerons 32 fois plus en 2020. Voilà. On sait que le monde a produit ces 50 dernières années plus d'informations qu'en 2000 ans d'histoire.
Effectivement, c'est des chiffres tout à fait étonnants. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques exemples que vous avez vous-même rencontrés dans le cadre de vos activités de conseil en gestion de l'information en entreprise, concrètement, comment ça se manifeste ?
Alors, la grande difficulté, on sait qu'aujourd'hui, les 2/3 des cadres souffrent de surcharge informationnelle, qu'ils consacrent aujourd'hui plus de 35% de leur temps de travail à gérer matériellement l'information. Donc effectivement, on mesure bien les risques pour les organisations. Maintenant, ce
qu'on observe... Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut répondre aux mails ? C'est essentiellement ça le problème ?
Alors la surcharge, elle est essentiellement par le biais du courrier électronique. Pourquoi ? Parce que le courrier électronique est un moyen de communication extrêmement inflammatoire, tout le monde le sait. On s'autorise à dire par écrit et à distance beaucoup plus qu'en face à face. Et par ailleurs, avec le jeu des réponses systématiques, avec le jeu des copies, avec la dimension de preuve également du mail, puisqu'il laisse une trace écrite, le mail est un cercle vicieux infernal. Donc les entreprises aujourd'hui sont assez ambivalentes par rapport au problème, parce que à la fois aujourd'hui pour un cadre, la joignabilité et la disponibilité permanente sont devenues la norme. Donc effectivement, le travail envahit toute la vie le fameux always on, anything, anywhere, anytime. Et en même temps, les entreprises sont en train de prendre la mesure des risques, et des risques notamment en termes de productivité, en termes de qualité de vie au travail, en termes d'innovation également. Donc de plus en plus, elles sont en train de se saisir de cette problématique pour essayer de trouver des solutions concrètes qui ne peuvent être, et je voudrais le répéter, qui ne peuvent être que collectives. Voilà. Les régulations individuelles sont inefficaces.
On va revenir sur les risques notamment répertoriés, sur ce que l'on peut faire avant de passer à la dimension purement, proprement journalistique. Caroline Sauvageol-Rialan, merci. Je salue Bernard Stiegler qui est dans ce studio. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour le constat, vous préférez parler de syndrome de saturation cognitive. Comment vous définiriez le problème ?
Oh, c'est très proche de ce qui vient d'être dit. En fait, c'est pas une question qui est très nouvelle, mais par contre, c'est une question qui a explosé, si on peut dire. Autrefois, c'était une question un peu spécifique dans le management des cadres et des cadres supérieurs. Aujourd'hui, c'est une question qui se pose partout, parce qu'avec le web et le net qui a permis à travers le web d'atteindre tout le monde, le problème est devenu majeur et frappe absolument toutes les populations, y compris les tout-petits-enfants.
C'est un peu le mal de l'époque, on peut dire, aujourd'hui.
Un des très grands mots de l'époque.
Fabrice Lorvaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, chroniqueur au Secret des Sources. Alors vous, dans votre livre que je citais tout à l'heure, Numérique de la Révolution au Naufrage, vous...
Point d'interrogation, pardon.
Effectivement, c'est important, car il y a sans doute une bifurcation possible.
Vous
parlez de milieu virtuel, chacun sa définition. Alors allons-y pour ce que vous pouvez compléter de ce qui vient d'être dit sur le phénomène lui-même.
Effectivement, moi, mon approche, c'est plus de mesurer l'impact de la révolution numérique sur la presse et les médias. Et moi, je pense que la problématique qui me concerne essentiellement, c'est cet afflux de données. Parce que on a toujours eu cette hiérarchie, entre guillemets, de la connaissance humaine. Vous réunissez des données qui vous donnent une information et de cette information, vous tirez une connaissance. Or, aujourd'hui, avec la révolution numérique, on est surtout submergé par une quantité de données et de données brutes. Et effectivement, ce modèle va avoir un impact notamment aussi sur les médias, puisque cette révolution numérique a entraîné d'abord une dématérialisation du support, et ça c'est une révolution dont on n'a pas encore mesuré les effets, puisque toute notre législation est basée, notamment le droit de la presse, sur le contrôle du support, sur l'impression. On parle bien du droit de la presse, c'est-à-dire de la machine qui imprime, et toutes ces règles-là ne sont pas du tout adaptés à une approche au niveau du numérique où vous avez effectivement n'importe qui peut se prévaloir de la qualité entre guillemets de journaliste et de vouloir communiquer. Donc cette infobésité aussi, un des aspects nouveaux, c'est que c'est un afflux d'informations, mais il y a aussi un afflux du monde d'acteurs qui vont émettre ces informations. Ça, c'est le premier aspect. Vous avez aussi la gratuité qui est imposée par le numérique, qui a bouleversé ces échanges de données. Et surtout, aujourd'hui, c'est l'immédiateté de la donnée qui est la norme. Et donc, vous avez besoin d'être aujourd'hui informé. Il faut, c'est une sorte de nouvelle drogue. Il faut être informé immédiatement de la donnée. Mais la donnée, c'est pas une information toujours. Et une information, c'est pas toujours une connaissance.
Alors, on n'a pas parlé, Bernard Stiegler, des réseaux sociaux. On peut en parler parce que là, effectivement, ce sont les personnes elles-mêmes qui se bombardent d'informations privées ou publiques d'ailleurs. Ça fait partie, évidemment, du phénomène.
Bien sûr que ça fait partie du phénomène. L'apparition de Facebook en particulier a beaucoup transformé la réalité du web. Il y a eu le web, disons, un, appelons-le comme ça, celui qui apparaît en 1993, où Google n'est pas encore là, si vous voulez, et qui est un web assez extraordinaire, d'ailleurs, où on voit tout à coup toutes sortes de gens pouvoir produire de l'information et du savoir, échanger et constituer des nouveaux circuits qui sont très intéressants et très très prometteurs. Ça a été pour beaucoup beaucoup de gens un espoir formidable. Il y a un deuxième temps qui est ce qu'on appelle le Web 2, qui est le web qui est apparu, disons, à la fin des années 90, début des années 2000, qui a donné des instruments à ces acteurs-là, ces nouveaux acteurs-là, avec les moteurs de recherche en particulier, avec toutes les technologies contributives ou collaboratives qui se sont beaucoup développées et qui ont permis, là aussi, d'outiller des communautés de manière assez prometteuse.
On était encore dans la promesse, alors là, au stade 2.
On était encore dans la promesse et même dans la... On avait des dispositifs qui commençaient à transformer l'information en connaissance, comme vous disiez. Parce qu'effectivement, un des gros problèmes, c'est que les gens confondent complètement l'information avec le savoir ou la connaissance. L'information, si on n'est pas capable de la transformer, c'est une catastrophe. Et si on est capable de la transformer...
Pourquoi c'est une catastrophe?
Parce qu'on est submergé, on n'est pas capable de l'intégrer. On est désintégré à partir de là.
On
est explosé. Et donc, le savoir... Alors, quand je dis le savoir, c'est pas forcément le savoir académique ou scientifique. Le savoir-vivre, le savoir-faire sont des formes de savoir aussi, permet d'intégrer les dispositifs et de se nourrir et de s'enrichir de ce qui apparaît. Les philosophes appelaient autrefois ça des data, mais pas au sens de la data économie, mais au sens où le latin datum, data, veut dire donner, une donnée de l'intuition, disait Emmanuel Kant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé alors avec les réseaux sociaux? Eh bien, les réseaux sociaux, et Facebook en particulier, mais pas seulement, ont tout à coup explosé tous ces dispositifs-là, ont repris complètement le contrôle des relations entre les individus et se sont, en quelque sorte, appropriés leurs data pour en faire un business et a conduit à ce que j'appelle une nouvelle prolétarisation de ce qui est devenu, comme le disait Caroline, une des consommateurs d'informations et non pas des transformateurs d'informations. Et l'information, si vous la consommez, en fait, vous la subissez. C'est-à-dire que vous devenez un mouton. Vous êtes mis dans une position de reproduire ce qu'elle vous fait et vous ne maîtrisez plus rien. Si vous voulez en faire quelque chose, il faut l'individuer, il faut la transformer. Vous pouvez l'envoyer à quelqu'un d'autre, mais après y avoir fait subir une transformation, ce n'est plus de l'information que vous envoyez, c'est du savoir. Et à ce moment-là, vous créez des liens de solidarité sociale, vous augmentez votre puissance d'agir, comme disait Spinoza, et vous produisez une sorte de plaisir et de bonheur.
Donc là, on est au stade 3, c'est ça, où tout ça se retourne.
Tout ça, je crois, arrive à ses limites. Personnellement, je pense que la data économie est vraiment catastrophique aujourd'hui, parce qu'elle produit des effets dans les encadrements supérieurs sur les hommes politiques, parce que les hommes politiques qui ne marchent plus qu'au tweet, c'est une catastrophe, tout le monde le voit bien. Et sur les citoyens, sur absolument tout le monde, sur les enfants, c'est absolument calamiteux. Demandez aux enseignants, voilà, la difficulté de travailler dans un contexte comme cela. Et ce que je crois, moi, c'est qu'il faut changer les formats de données et les architectures, l'architecture du web en particulier, et qu'il y a à repenser très en profondeur l'industrie de l'information dans son ensemble et réélaborer des politiques publiques d'éducation, de formation, de profitabilité, de nouvelles formes d'économie basées sur un réengineering complet de ce dispositif.
Tout petit mot peut-être.
Oui, juste, on vient de découvrir que Internet était un outil et que cet outil qu'on a subi, il faut se le réapproprier et pas le laisser libre d'usage comme ça.
Voilà, on va en venir évidemment aux solutions, aux possibilités d'avancer, mais je voudrais qu'on en reste un tout petit peu aux risques qui sont répertoriés maintenant. C'est un peu en fait comme la liste des effets secondaires dans la notice des médicaments, alors je cite, désengagement, déficit d'attention, addiction, anxiété, perte de mémoire, indécision, altération du jugement, atteinte de la créativité à la créativité, troubles dysfonctionnels et relationnels. Et puis les Américains ont même inventé un acronyme, FOMO, de l'anglais Fear of Missing Out, sorte d'anxiété sociale caractérisée par la peur constante de manquer une nouvelle importante ou un autre événement quelconque donnant une occasion d'interagir socialement. Caroline Sauvageol-Rialland, je vous redonne la parole parce que vous avez quelques chiffres, ou en tout cas aussi beaucoup d'expérience de ce qu'on appelle la cyberdépendance chez les jeunes, l'enseignement, la manière dont ça fonctionne, dont vient de parler Bernard Stiegler.
Il y a quand même un risque majeur, je rebondis sur ce qu'a dit Monsieur Stiegler, sur le fait que, effectivement, il y a nous vivons dans l'illusion que tout le monde peut accéder à la connaissance, qu'avec Internet, l'accès au savoir serait devenu universel. Voilà, et je crois que c'est absolument faux, puisque les informations ne font sens que par rapport à un socle de connaissances qu'on a déjà. Et la mise à disposition des informations ne rend pas celle-ci intelligible pour tous. C'est une évidence. À titre d'exemple, le rapport d'enquête de l'ONU sur les attentats du 11 septembre, qui a montré que toutes les informations étaient stockées dans le système d'information des renseignements américains, le lieu, la période et même le processus opératoire. Qu'est-ce qui a manqué ? Ce qui a manqué, c'est la capacité à analyser ces données, à les transformer en informations, à les comprendre. Donc effectivement, le risque, il est là. Je crois qu'il y a cette illusion à laquelle il faut renoncer. Maintenant, sur les risques, plus précisément sur la surcharge informationnelle, le risque majeur, c'est un risque de désinformation, il faut le dire. Aujourd'hui, le monde scientifique produit 100 fois plus d'études qu'il y a 100 ans. La grande difficulté aujourd'hui, c'est de connaître la bonne information et de la différencier de la mauvaise. C'est extrêmement compliqué, on le sait aujourd'hui. À titre d'exemple, cette émission sur France Info, Le vrai du faux, décrypte chaque jour, en quelques minutes, les propos qu'a tenu un expert ou un homme politique sur un sujet. On voit bien la grande difficulté de différencier la bonne information de la fausse. Pourquoi ? Parce que tout le monde produit de l'information aujourd'hui. Regardez toutes les unes des magazines, le vrai du faux sur l'alimentation, le vrai du faux sur les traitements sur telle maladie, le vrai du faux. Voilà, c'est une difficulté qui est aujourd'hui majeure pour nous tous.
Je voudrais que vous
la croissance informationnelle se fait à qualité décroissante. C'est un fait scientifique.
Je voudrais que vous parliez aussi de votre expérience d'enseignante, finalement, puisque vous avez affaire souvent à des jeunes, par rapport à comment vous voyez ce problème chez vos étudiants se manifester.
Alors, les étudiants, aujourd'hui, ont un mode de fonctionnement qui est très très différent de la génération précédente, des X. Pourquoi ? Parce qu'ils ont accès à un nombre d'informations très très importantes. Le problème, c'est, encore une fois, la capacité à analyser ces informations. Et aujourd'hui, il est quand même frappant pour moi de noter que la consommation, notamment d'amphétamines, au moment de la révision des examens, est tout à fait frappante et significative, hein. La consommation de Ritaline, cette amphétamine qui soigne les symptômes du déficit d'attention, ce médicament est consommé de plus en plus largement par les étudiants. Aux États-Unis, il y a eu plusieurs études qui ont montré qu'entre 18 et 35% des étudiants américains en consommaient pour améliorer leur performance scolaire. Donc ces consommations de smart drugs sont quand même inquiétantes pour nous tous et en disent beaucoup sur la difficulté effectivement des jeunes à la fois être présents dans un cours mais en même temps à être connectés avec leurs amis, avec leur famille, avec leur environnement. Et donc finalement, à quoi est-ce que j'accorde mon attention ? C'est extrêmement difficile. Donc aujourd'hui, moi j'ai des étudiants en face de moi qui peuvent être avec moi, mais qui peuvent être également sur leur réseau, qui peuvent être en train de faire des recherches sur Internet sur n'importe quel autre sujet. Et donc, toute la question aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, comment on retient l'attention ? C'est la problématique majeure. Et je crois qu'on doit tous s'interroger par rapport à ça et devenir de plus en plus exigeants et de plus en plus sélectifs, à savoir, voilà, à quoi est-ce que j'accorde mon attention, à qui, quand, comment, et par contre, naviguer aussi entre les différentes formes d'attention. C'est-à-dire, il y a des moments où on doit être dans une attention totale, des moments où on révise ses examens, des moments où on est en cours, des moments où on se concentre sur un sujet. Et puis, il y a la variété côté, de l'autre côté complètement, c'est le multitasking. Et ça, on expérimente ça aussi, nous tous. C'est-à-dire, il y a des moments où on peut en même temps répondre à un mail, en même temps être sur une conversation téléphonique. Donc, vous voyez, il y a plusieurs variétés d'attention. Et on doit tous aujourd'hui travailler là-dessus et décider à quel moment on accorde cette attention. Oui, et je crois que c'est l'enjeu de demain.
Il y a aussi quand même ce dont je parlais tout à l'heure, le fameux FOMO, le syndrome bien de sûr. La peur de manquer quelque chose. Alors ça, c'est un truc qui parasite énormément, évidemment, parce qu'on ne sait même pas si, où est-ce qu'il faut aller. Peut-être qu'il se passe quelque chose de plus important ailleurs, sans qu'on le sache vraiment.
Oui, tout à fait. Le FOMO désigne en fait le sentiment d'anxiété, de nervosité, voire d'infériorité, qu'a effectivement un jeune, hein, puisqu'on sait que ça concerne essentiellement les 18-35 ans, à l'idée d'avoir raté, de ne pas avoir participé à un événement social, une fête par exemple, ou bien par la peur de rater quelque chose. Une étude qui a été menée en France en 2016 a montré que 44% des répondants ont peur d'avoir des expériences moins gratifiantes que leur père et que 33% sont anxieux à l'idée de ne pas savoir ce que font leurs amis. Donc effectivement, ça peut dégénérer en sentiment totalement irrationnel. On parle au Japon également aussi des hikikimori du savoir. C'est une pathologie qui désigne et aussi beaucoup les jeunes qui ne sortent plus de chez eux, qui n'ouvrent plus la porte à personne et qui vivent à travers leur profil sur les réseaux sociaux. Ils étaient en 2012 264 000 au Japon. Et les pouvoirs publics craignent une épidémie. On pourrait aussi parler de la Corée du Sud, le pays le plus connecté au monde, hein, avec 98% de la population connectée au débit. En Corée du Sud, l'État a financé ces 10 dernières années la création de 122 cliniques de désintoxication à Internet.
En tout cas, je crois qu'on peut être assuré qu'il n'y a rien de mieux à faire que d'écouter France Culture en ce moment. Bernard Stiegler, je me tourne un peu vers le philosophe que vous êtes sur les conséquences de tout cela sur ce qu'on pourrait appeler la faculté de penser, la capacité à penser.
Je pense qu'il faut reconstruire du collectif en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe avec ce qu'on appelle parfois la désintermédiation qui est produite par ces technologies qui horizontalisent les relations ? En particulier les réseaux sociaux, mais pas seulement, on court-circuite et on détruit des dispositifs collectifs qui garantissaient de la certification. Je prends le mot certification à la fois au sens du bureau Veritas qui certifie la qualité d'un bâtiment, la certification qui fait qu'un jury de thèse vous dit « oui, vous êtes physicien maintenant, aujourd'hui, vous êtes un docteur de physique », ou la certification de la qualité d'un restaurant par le Goemio ou je ne sais quoi. Ces processus de certification, ils étaient pris en charge par des institutions. À une époque, c'était l'Église, ensuite c'est devenu les institutions de la République. Aujourd'hui, ils sont court-circuités, y compris les universités et tous ces processus-là. Et je pense qu'il faut réélaborer des processus de certification qui, par contre, reprennent très sérieusement en charge, les questions qui sont que, eh bien, une donnée, ce n'est pas une information, ça n'est pas du savoir, et le savoir, ce n'est pas la réalité, par ailleurs. Et donc, à partir de là, moi, je travaille à des modèles que j'appelle des coopératives de savoir, qui consiste, et je travaille comme ça depuis longtemps d'ailleurs, l'association Ars Industrialis que j'ai créée il y a 11 ans fonctionne comme une coopérative de ce type-là, où nous échangeons beaucoup de choses, nous nous faisons confiance, nous nous connaissons, nous utilisons le web, nous utilisons YouTube, nous utilisons toutes ces technologies pour arriver à produire du collectif qui repose sur une certification de confiance avec des gens alors qui parfois sont des diplômés ou des experts, je sais pas quoi, ou tout simplement des gens que nous connaissons. Et je crois qu'il y a à réélaborer toute une politique qui devrait venir au cœur de la politique européenne par ailleurs, parce que l'Europe est le grand perdant mondial de tout cela. Les États-Unis sont les grands gagnants et les Européens ont perdu progressivement toute leur capacité prescriptrice. Tout à l'heure, on parlait de thérapeutique, c'est ce que disait Caroline.
Caroline Sauvageol Rialon.
Voilà, qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait, faut apprendre à faire avec des moments attentionnels qui changent. Mais ça s'enseigne. Et aujourd'hui, comme on ne le transmet pas, parce qu'on est dans un dispositif de disruption, c'est-à-dire une transformation technologique qui va beaucoup plus vite que les sociétés, eh bien, c'est contrôlé par des gens qui pratiquent le marketing disruptif et qui court-circuitent tous ces processus de certification. Ça donne le discrédit des hommes politiques, le discrédit des banques, le discrédit des universitaires, le discrédit des familles, et ça produit un sentiment délétère. On a l'impression que le monde est au bord de s'effondrer, quand même.
Voilà, dans une petite minute, on en vient, j'allais dire, au cœur de notre sujet, qui nous concerne en tout cas plus particulièrement au secret des sources, à savoir la pratique journalistique.
One more.
Voilà un petit extrait de Prince, Money Don't Matter Tonight.
Le secret des sources, Antoine Mercier.
Voilà, on en vient à la seconde partie de l'émission sur la déclinaison du proprement journalistique de ce phénomène. Je me reviens vers vous, Caroline Sauvageol-Rialan. Ce que l'on vient de dire, donc, de portée générale, s'applique naturellement à l'information au sens journalistique du terme. Vous-même, vous êtes une ancienne journaliste. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu les données que vous nous apportiez tout à l'heure qui concernaient généralement la question de l'infobésité sur cette question de l'information aujourd'hui?
D'abord, l'infobésité présente un risque, c'est le risque de l'immédiateté de l'information. L'immédiateté, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte essentiellement de l'émotion. Et l'émotion en information, c'est quelque chose qui peut nous rendre aveugles. Voilà, je prends un exemple sur les attentats du 13 novembre. Finalement, qu'est-ce qui était le plus important pour nous en tant que citoyens? Est-ce que c'était de regarder toutes ces images tragiques, voilà, des blessés allongés dans la rue, le détail des blessures, ou est-ce que c'est de comprendre le pourquoi du comment? Qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui a pu conduire un certain nombre de jeunes à devenir des terroristes? Je crois que l'immédiateté n'apporte qu'émotion. Si on veut essayer de comprendre, il faut prendre du recul et ça demande du temps. Et donc le temps de l'information, il est fondamental. Et effectivement, il faut choisir tout simplement ce qu'on avale, j'ai envie de dire, comme information. On dit que nous sommes ce que nous mangeons, mais nous pensons, nous croyons ce que nous lisons, écoutons et regardons. Moi, j'ai été frappée par une étude sur les attentats de Boston qui a été publiée il y a quelques mois, qui a montré que les personnes qui étaient restées devant leur écran 6 heures par jour dans les 2 à 3 semaines qui avaient suivi donc les attentats de Boston avaient développé un syndrome de stress post-traumatique. C'est tout à fait fascinant de se rendre compte qu'au final, un certain nombre de personnes non présentes au moment du marathon ont été davantage malades physiquement que des personnes présentes au moment des attaques.
Bernard Stiegler, évidemment, ce sont des phénomènes très, très frappants. On a l'impression que l'immédiateté nous prive de notre présent, finalement, de la capacité de rester à l'endroit où nous sommes. Quelles conséquences, selon vous, pour la société, la politique, le rapport en général des citoyens au monde? On a vraiment l'impression que cette surinformation se conjugue avec un désinvestissement pour la chose commune et un repli sur ses propres affects.
Mais ça veut dire qu'il faut repenser, je parlais tout à l'heure des institutions, il faut repenser en totalité ces institutions. Particulièrement, évidemment, je suis plus concerné par ce qu'on appelle les institutions académiques, parce que j'en fais partie. Il y a déjà pas mal d'années, j'ai donné un cours à Princeton. J'avais été invité comme ça pour 2 semaines. Et mes étudiants à Princeton avaient un site web de mon UV. Voilà. Et pendant que je donnais cours, ils allaient, mais c'était commandité. C'est-à-dire qu'on les laissait pas aller sur n'importe quoi. On avait créé pour cet UV quelque chose qui fait qu'on canalisait les choses. Alors, il faut réfléchir à ces questions très, très en profondeur. J'ai été associé, moi, un petit peu à ce qui a été lancé sous le titre autour des MOOC, je me souviens plus, l'opération qui avait été lancée par la ministre de la Recherche il y a 3 ou 4 ans. C'est ça, merci beaucoup, France Université Numérique. On a fait ça sans réfléchir. On l'a fait en imitant Harvard et Stanford, qui au même moment disaient déjà, mais il faut pas faire ça, on s'est aperçu que ça marche pas du tout, etc. Et on reproduit sans réfléchir, c'est qu'on n'investit pas, on ne cultive pas, on ne développe pas de programme de recherche sur ces questions, ce qui va qu'après on imite les autres et on subit tous tous les effets négatifs. Parce qu'à Stanford, et à Harvard en particulier, le professeur Lou Harvard a dit « c'est une catastrophe ce système des MOOC et il faut revenir sur ce qu'il appelait des SPOC, Small Private Online Courses », c'est-à-dire non pas ouvert à tout le monde, avec un processus de sélection et avec un processus de, comment dire, de travail en commun, ce que j'appelais tout à l'heure des coopératives de savoir, bon, et non pas une ouverture comme ça sur le marché. Et nous imitons ces choses-là de manière absolument stupide, nous n'y réfléchissons pas. Le numérique transforme absolument tout, la fiscalité, le travail, l'éducation. Il faut faire un travail de fond. Et ce travail n'est pas fait, nous n'investissons pas dans ce travail.
J'ai l'impression que l'idée centrale, c'est d'arriver à s'approprier, effectivement, à être capable d'intégrer, d'ingérer toutes ces informations, comme vous l'avez dit, pour en faire des savoirs. Je reviens sur la question quand même politique, parce qu'il me semble que ce que vous décrivez là pour le monde académique, comme vous dites, c'est vraiment ce que l'on constate aussi sur le plan politique, c'est-à-dire qu'on n'a plus, finalement, les gens sont détachés, déconnectés du vrai savoir, parce que, et donc ils se détournent de la politique.
Mais le politique était constitué chez les Grecs, puis ensuite avec Jules Ferry en France, etc., ou bien encore avant avec Condorcet, sur la constitution du savoir. C'est-à-dire ce qui définit un citoyen, si on lit par exemple Henri-Irénée Marou, qui est un spécialiste de la Grèce et de Rome, ce qui définissait le citoyen, sa possibilité d'être un citoyen, c'était d'accéder à une forme de savoir. Par exemple, Henri-Irénée Marou a montré qu'en 650 et quelques, les Grecs d'Athènes avaient déjà des écoles, puisqu'il a trouvé une archive qui disait qu'ils ont été protégés à un moment donné, ils étaient en fuite, je me souviens plus de l'histoire précisément, mais on leur avait reconstitué une école pour leurs enfants, parce que voilà, on ne concevait pas qu'un Athénien n'aille pas à l'école, voilà, en tant que citoyen. Maintenant, la question, c'est que le savoir, ce n'est pas ce qui se trouve dans le cerveau. Contrairement à ce que le neurocentrisme courant aujourd'hui nous donne à croire, le savoir, il est dans les livres, il est dans les radios, il est dans les bibliothèques, il est dans les musées, il est dans les objets, dans les architectures. Et à partir de là, il faut repenser le savoir comme étant quelque chose qui ne se produit pas dans les neurones, mais qui se produit entre des cerveaux qui sont reliés entre eux par des organes artificiels. À une époque, c'est l'écriture, cunéiforme puis alphabétique. Ensuite, c'est la presse imprimée. Ensuite, c'est la radio et la télévision. Maintenant, c'est le web. Et ça veut dire qu'il faut repenser tous ces processus-là. Moi, j'appelle ça dans mon institut, l'Institut de recherche et innovation, l'organologie. Nous étudions et nous avons créé d'ailleurs un réseau international avec 40 institutions du monde entier, dont des très grandes institutions, Berkeley, Cambridge, l'Université de Berlin. Et nous travaillons à essayer de développer des choses comme ça. Mais nous ne sommes pas soutenus par les pouvoirs publics, par contre. Ça, c'est complètement sidérant. Voilà.
Fabrice Lorvaux, vous vouliez dire un mot ?
Le savoir était aussi extrêmement lié au support. Vous avez cité effectivement le livre. Et la particularité de la révolution numérique, c'est qu'il y a eu un hold-up sur le support. Ce support est désintégré, maintenant il est numérique. Et effectivement, cette sorte de certification qu'il y avait par le support a complètement disparu. On est arrivé à un savoir en ligne, à la fois au niveau numérique, mais aussi au niveau que tout est au même niveau. Et vous n'avez plus ce phénomène de certification. Et le destinataire la donnée, l'information, la connaissance, bah lui, il est laissé d'un peu dans cette jungle et il prend la première chose qu'il a en face de lui. Il se dit, voilà, ça, c'est le savoir et la connaissance. Et c'est là, effectivement, la difficulté. Et donc, encore une fois, Internet, c'est un outil, mais c'est un outil merveilleux. C'est un outil lorsqu'il est bien utilisé. Encore faut-il apprendre à s'en servir.
Révolution ou naufrage, pour l'interrogation, c'est le sous-titre de votre livre. Alors, on en vient, on a déjà commencé à parler des pistes pour l'avenir. On accueille Pierre Lebovici, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes un jeune journaliste, vous avez cofondé le site l'imprévu.fr. C'est un média qui se propose des enquêtes, qui propose des enquêtes de long cours, donc pour essayer de sortir justement de ce modèle ultra rapide du web journalisme et du journalisme en général. L'imprévu, donc, n'a pas encore un an, je crois, c'est ça,
vous avez pas encore,
voilà. Non. Alors, expliquez-nous comment c'est venu cette idée, puis quelle est votre ligne éditoriale, puisque précisément votre but est de sortir de ce flux intarissable.
Tout à l'heure, on parlait du fait qu'aujourd'hui, on a du mal à rater quelque chose. Ce syndrome d'anxiété, de nervosité. Nous, à l'imprévu, au contraire, on revendique le fait de rater quelque chose parce que cette hiérarchie, cette mise sur un même plan de toutes les informations, elle ne nous allait plus. Autant en tant que lecteur de l'information qu'en tant que journaliste. On se sentait pris dans un tourbillon sur lequel on n'avait aucune prise. Et donc a émergé l'idée avec ces anciens journalistes d'OVNI.fr, dont on en faisait partie, de proposer un autre rapport au temps médiatique. Et on a créé donc l'Imprévu, qui est un site qui a pour ambition de revenir sur des événements qui ont été très médiatisées et puis totalement oubliées. Donc cette dimension rétrospective pour nous, elle est vraiment centrale. On se pose la question de pourquoi on nous a autant parlé à un moment donné de tel ou tel événement. Qu'est-ce qu'il a pu se passer depuis ? Et ça, c'est des questions qui résonnent vraiment auprès de autant des collègues journalistes que de ma tante qui ne s'informe jamais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Voilà, ça c'est
alors,
la première question.
Alors qu'est-ce qu'il y a par exemple en une du site en ce moment ?
Alors en ce moment là, on a fait un retour la semaine dernière sur le Grenelle de l'environnement. Sur la problématique des transports en particulier. Alors c'est un cas comme un autre. Hein. On est également retourné voir les Conti, ces ouvriers là de l'usine Continental qui ont été licenciés, qu'on a suivi pendant quelques temps dans les médias. On a beaucoup entendu parler. Et puis qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ces ouvriers ? Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Qu'est-ce que ça veut dire de l'industrie française en déliquescence ? Qu'est-ce que ça veut dire de la reconversion ? Est-ce qu'elle est possible aujourd'hui à notre dans cette société dans laquelle effectivement il y a toujours plus de licenciements surmédiatisés, si vous voulez. Nous, on est allé voir ces gens-là et on est allé voir quelles leçons on avait pu tirer aussi de ça. Et ça permet d'interroger toute la problématique des cabinets de reclassement, toute la problématique.
Et vous retrouvez l'actualité finalement.
Exactement.
À partir de ce rétro-journalisme. Si
c'est ça,
dire.
De comprendre finalement le présent, si vous voulez, en revenant sur le passé.
Caroline Sauvageol-Rialan, en quelques mots, est-ce que vous avez des remèdes à nous proposer, notamment en ce qui concerne le journalisme, mais peut-être plus largement ?
Je crois, en tout cas, que la formation aux nouveaux outils de communication, nouveau, effectivement, n'est plus peut-être le terme exact, mais malgré tout, c'est quand même relativement récent. Tous ces nouveaux outils malgré tout. Et donc oui, je pense que la formation est absolument essentielle. D'abord parce qu'on fait comme si les compétences infocommunicationnelles étaient innées. Or, c'est absolument pas le cas. On a pendant assez longtemps considéré le travail d'information comme un non-travail, sans valeur ajoutée, du moins dans les organisations. Et donc, et en plus, en France, on est très largement autodidacte par rapport à l'utilisation des technologies. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a la rupture technologique. Elle est, à mon avis, non pas entre ceux qui ont Internet et ceux qui ne l'ont pas. Aujourd'hui, voilà, tout le monde est connecté ou presque. La rupture technologique, elle est entre ceux qui savent se servir de ces nouveaux outils et ceux qui ne savent pas. Et je crois que là, il y a énormément d'efforts à faire sur ces questions. Il y a eu un rapport du Centre d'analyse stratégique en 2012 qui a montré que les formations aux outils de communication avaient baissé ces 7 dernières années de 50%, alors que par ailleurs, on a de plus en plus d'outils de communication mis à disposition. Donc aujourd'hui, voilà, le monde, il appartient à ceux qui savent utiliser les outils et qui vont améliorer effectivement la qualité de l'information qu'ils vont ingurgiter. Voilà. Et ça fait une grande différence par rapport à ceux qui vont subir l'information telle qu'on la connaît aujourd'hui, à savoir tout le temps, immédiate, extrêmement courte, sur des formats qui ne permettent pas d'accéder à la réflexion.
Pierre Lebovici.
Oui, au-delà de la formation, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un mouvement aujourd'hui dans les médias, qui reste mineur, mais qui tend à l'explication, au décryptage. On a besoin justement de décoder tout un tas de signaux qu'on comprend plus. Et je pense à ce qu'on évoquait tout à l'heure là sur le fact-checking, la vérification des faits. Donc comment vérifier ce qui a été dit par un représentant politique. Ça, c'est une tendance qu'on observe beaucoup quand même de plus en plus, autant à la radio que sur le web. Et je pense que ça peut être une forme de réponse à la surinformation, justement, redonner du contexte, finalement. Essayer de pas concevoir les médias comme une simple caisse de résonance, si vous voulez, mais plus comme un organe pouvant proposer une distance analytique, thérapeutique, hein, finalement, on parlait d'anxiété, une distance thérapeutique.
Ben, si je peux m'introduire dans le débat en tant qu'intervenant, puisque bon, j'ai l'occasion de faire parfois des journaux sur France Culture, moi j'ai l'impression que à chaque fois j'essaie quand même de tenir un peu les deux bouts, c'est-à-dire malgré tout l'actuel, ce qui vient de se produire, et puis le plus possible de la distance, l'analyse, l'interprétation de ce qui se passe. Est-ce qu'on peut vraiment abandonner précisément la source des choses qui fait que quand même on est là pour donner les informations sur ce qui se passe ?
Pour moi, la question n'est pas d'abandonner. Je pense qu'il y a des démarches complémentaires, si vous voulez, entre la narration du présent, de ce qui se passe aujourd'hui, et l'explication de tendances plus lourdes qui méritent d'être analysées. Hein, je pense que c'est complémentaire. En revanche, s'il y a des choses qu'on pourrait abandonner, je pense, c'est cette surabondance d'informations, notamment sur les réseaux sociaux, qui viennent certes des citoyens, des particuliers, qui vont forcément participer au bruit médiatique.
C'est l'auto-intoxication, évidemment.
Oui, mais les médias aussi, je pense, ont à se remettre en question là-dessus. Parce qu'on parlait d'images choc là, tout à l'heure, d'images spectaculaires, qui entretiennent le côté voyeuriste aussi de certains internautes. Ces images, elles sont diffusées par des médias aussi, pas tous, heureusement, mais il y en a aujourd'hui, encore récemment à Bruxelles, qui ont fait le jeu, si vous voulez, de ce voyeurisme. Donc je pense que on doit, en tant que médias aujourd'hui, s'interroger aussi et prendre acte de cette nécessaire prise de distance.
Fabrice Lorvaux.
Et puis je me permets d'intervenir. Pour moi, c'est tout à fait certain. L'exhaustivité est un concept qui est totalement obsolète dans un monde digital. Il faut le dire, il faut le redire. La certitude selon laquelle nous finirons par tout entendre, par tout voir, par tout lire, doit être définitivement abandonnée. On ne pourra pas plus empêcher l'information de proliférer que la Terre de tourner. Et donc, effectivement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'être sélectif. C'est la hiérarchisation, c'est le choix. Et donc, il faut travailler sur notre rapport à l'information, qui, on le sait, est un rapport aussi assez irrationnel.
On peut quand même sélectionner de manière exhaustive. C'est-à-dire, on prend l'ensemble des données, puis on sélectionne à partir de l'ensemble des données.
Ah ben, voilà, vous pouvez, c'est absolument impossible. Comment écouter tout ce qui va se dire sur toutes les radios, sur toutes les chaînes, sur un sujet? C'est absolument impossible. Donc, de toute façon, on fait déjà une sélection aujourd'hui. Et à l'avenir, on va être amené à la faire de manière encore plus précise, hein. Umberto Eco l'a dit encore il y a quelques mois. Il avait effectivement expliqué que demain, la compétence qui était la plus recherchée, c'est une compétence de hiérarchisation, de sélection de l'information. C'est absolument évident.
Fabrice Lorvaux. Pour que le numérique soit une vraie révolution et pas un naufrage, pour reprendre encore une fois l'interrogation de votre livre, qu'est-ce qu'il faudrait fondamentalement?
Déjà, il faut avoir conscience que, contrairement à l'adage, abondance de biens ne nuit pas, abondance d'informations peut nuire. Il peut nuire à la santé et il peut jusqu'à nuire à la démocratie, puisque pour reprendre ce que disait M. Stigler tout à l'heure, lorsque vous ne vous appropriez pas l'information, vous la subissez, et lorsque vous la subissez, vous pouvez vous faire contrôler. Est-ce qu'on va devenir des moutons numériques? Est-ce que la seule interaction qu'on va solliciter des gens, ça va être pouce levé ou pouce baissé? On en revient là au jeu du cirque. Alors effectivement, on a ce constat, on a cet outil dont on sait maintenant qu'on doit se l'approprier. Et pour moi, c'est ce que j'évoque dans mon ouvrage, il n'y a que l'école, bien sûr, qui doit reprendre une place, mais prépondérante, où effectivement, Internet ne doit pas être quelque chose qu'on apprend le vendredi soir en fin de cours, mais il faut repenser maintenant l'éducation en intégrant cet outil et en apprenant.
Et que les élèves n'aient pas leur smartphone sur leur bureau.
Notamment, mais ça aussi, c'est une manière d'apprendre à utiliser l'outil. L'outil est bien, mais vous ne pouvez pas vous en servir tout le temps. Il y a des moments pour s'en servir, il y a une façon pour s'en servir. Ça aussi, il faut l'apprendre aussi. C'est évident, mais je pense qu'il faut rappeler ces évidences.
Bernard Stiegler, pour conclure, donc j'ai noté que vous souhaitiez réintroduire des intermédiaires, on va dire de la verticalité peut-être.
Est-ce que c'est oui, et puis reconcevoir les réseaux. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, les réseaux prétendent être horizontaux. Ils ne le sont pas du tout, puisque Facebook, lui, verticalise complètement. C'est là-dessus qu'il fait son business. Et donc, il faut avoir une vérité des réseaux. Et je pense qu'il faut les reconcevoir. C'est-à-dire, tout à l'heure, Caroline Sauvageau-Rialan disait qu'il faut apprendre à utiliser les instruments. Elle a tout à fait raison, mais il faut aussi inventer de nouveaux instruments. Les instruments tels qu'ils sont aujourd'hui ne sont pas satisfaisants. Et moi, je suis désolé de savoir que le web a été inventé en Europe, avec l'argent de l'Europe, et qu'il a été exploité par les États-Unis. Et qu'aujourd'hui, il faut réinvestir, il faut arrêter de dire qu'on ne peut rien faire en Europe, c'est archi-faux, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs mathématiciens restent européens. Et donc, il est important de réinvestir sur ces questions-là. Moi-même, j'essaye de le faire avec mes étudiants. Aujourd'hui, mes étudiants, quand ils m'écoutent, ils doivent prendre des notes. Ces notes, ils doivent les reporter sur un site. Et le report de leurs notes sur le site donne leurs critères de sélection dans ce qu'ils entendent. Parce que j'ai 40 étudiants entendent 40 choses différentes dans ce que je dis. Et ce qui est très intéressant, c'est de les amener à voir la différence entre eux. Et à ce moment-là, se crée une vraie communauté. Parce qu'après, ils discutent, ils se disputent d'ailleurs aussi. Et ça produit une individuation collective, comme dit Gilbert Simondon. Mais ça, ça passe par la technologie. La technologie, c'est pas le problème, la technologie. Le problème, c'est l'absence de politique de la technologie ou le fait de se laisser soumettre à des modèles qu'on subit exactement comme les gens subissent l'information, c'est-à-dire en étant contrôlés par ces modèles.
Il y a un concept en vogue en ce moment, l'accélérationnisme, qui consiste à sortir précisément du système par le haut, on va dire.
Eh bien, les accélérationnistes, j'étais avec eux ce matin pour la radio suisse et je les ai invités chez moi cet été dans mon académie d'été. On va ouvrir une grande discussion avec eux. C'est un mouvement qui est surtout anglais. Il y a aussi un allemand, il y a aussi un anglais.
Ça consiste en quoi, en deux mots?
Ça consiste à dire qu'il faut se réapproprier l'évolution technologique dans les perspectives politiques, dans les luttes sociales, pour ne pas laisser à des modèles, disons, qui viennent du marketing et du business, imposer des modèles pour demain, mais que véritablement, la gauche en particulier, puisque les accélérationnistes se définissent comme des gens de gauche, propose une nouvelle vision de l'évolution technologique. Et je pense que effectivement c'est salutaire, parce qu'aujourd'hui, il est le grand problème que nous avons en Europe surtout, c'est que nous n'avons plus aucune vision de ces choses-là. Et c'est une catastrophe, sous prétexte que la puissance publique a fait des erreurs, etc. Oui, mais il n'y a pas que la puissance publique qui fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs.
Alors, je voulais vous donner le mot de la fin, mais Pierre, allez-y, puisque vous êtes le plus jeune autour de la table.
Sur ces modèles technologiques inventés, il est intéressant de voir que dans les grandes conférences sur l'innovation journalistique, sur le futur des médias, aujourd'hui, on va parler que de mobiles, de vidéos, par exemple, et puis de robots journalistes. Finalement, autant d'évolutions technologiques qui vont dans le sens, pour moi, de l'accélération, toujours plus. Et c'est pour ça que je crois que prendre son temps, c'est aussi une meilleure manière de le comprendre, ce même temps.
Et c'est une meilleure manière d'accélérer.
Merci Pierre Lebovici. Je rappelle donc que vous êtes le cofondateur de ce site qui s'appelle L'Imprévu, qu'on peut aller évidemment consulter en complément des informations sur France Culture. Merci à Bernard Stiegler, merci à Caroline Sauvageol-Rialan d'avoir été en ligne avec nous depuis Aix-en-Provence. Merci à vous donc Fabrice Lorvaux. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de sortir, Numérique de la Révolution au naufrage, aux éditions Fauve. Émission réalisée avec Vincent Abouchard, préparée avec Mathias Mégy, à la technique Michel Mestre. Dans un instant, eh bien, ce sera le journal de 9h avec Élodie Forêt et puis réplique d'Alain Finkielkraut.
Les risques, plus précisément sur la surcharge informationnelle, le risque majeur, c'est un risque de désinformation, il faut le dire. On voit bien la grande difficulté de différencier la bonne information de la fausse. Pourquoi ? Parce que tout le monde produit de l'information aujourd'hui.
Eh bien, les réseaux sociaux, et Facebook en particulier, mais pas seulement, ont tout à coup explosé, ont repris complètement le contrôle des relations entre les individus et se sont en quelque sorte approprié leurs data pour en faire un business.
On vient de découvrir que Internet était un outil et que cet outil qu'on a subi, il faut se le réapproprier et pas le laisser libre d'usage comme ça.